vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 124. Ah, rien ? Comme c'est bizarre, Christian Gouillard. Chers amis, bonjour, rien de rien, il ne regrette rien, Edith. Moi, vous ne trouvez pas cela bizarre d'être indifférent à ce qui est rare ? Voilà un boulevard pour les bavards. Et ce n'est pas un hasard s'il est un peu hagard, le gaillard. Alors je lui demande de poser son cigare. Bonjour Christian Gouillard.
Cher Ambroise Perrin, bonjour.
Alors vous êtes un peu comme Abélard.
J'aimerais mieux pas.
Ou Ronsard ?
Je préférerais.
Ah, voilà.
Malgré la surdité.
Un anticonformiste dans la beauté de la langue française, c'est un petit rien. Mais pourquoi y a-t-il un D à la fin de boulevard et de bavard ?
C'est une excellente question.
On se croirait dans un débat politique.
Oui.
Bon, je précise que vous êtes prof, vous êtes un habitué de notre chère émission, vous l'avez bien connu. Et que vous êtes d'une érudition formidable. Alors, le D.
Oui, alors, d'abord, je fais toute réserve sur ce portrait excessivement flatteur. Alors, le D, bon, assez souvent, le D à la fin des mots, enfin, du moins, à la finale ARD, est assez péjoratif. Hein. Brouillard, froussard, etc. Dans le cas de boulevard, et vous citiez...
Gaillard.
Oui, gaillard, oui.
Ou bavard.
Oui, là, je ne pense pas que c'est une signification particulière. Hein. D'ailleurs, je fais remarquer que mon patronyme se termine par un T,
oui.
Ce qui me permet de m'éloigner de ces...
connotations pessimistes.
Voilà, et péjoratives, n'est-ce pas, oui. Du genre froussard, etc.
Voilà. D'accord. Alors, vous connaissez les Goliards?
Hein,
c'est,
oui.
C'est clercs médiévaux qui écrivaient des chansons grivoises. Et alors, question rituelle pour sa banalité confondante, les Goliards aimaient-ils la tarte au fromage ?
Si c'était des Goliards dignes de ce nom, sans aucun doute.
Oui, hein. Puisque c'était des bons vivants. Hein.
Ah, tout à fait, il suffit de voir Rabelais, n'est-ce pas ?
Oui, oui. Oui.
Et je signale d'ailleurs... que lorsque je vais acheter de la tarte au fromage rue Gaillard, je ne manque jamais de me recommander de vous.
Ah.
Alors, ça ne me vaut pas une réduction, mais ça me vaut un petit sourire supplémentaire.
Oui, oui.
C'est toujours
alors,
ça.
Bon, c'est une astuce que l'on fait ici à la radio. Je n'ai absolument, bien sûr, aucun intérêt, ni aucune... Mais depuis que nous pérorons à la radio sur la tarte au fromage excellente avec une petite goutte de vanille de la rue Gaillard, au lieu d'en faire une par jour, il en fait quatre par jour.
Ah.
Et c'est quand même 12 parts, je crois. Ou 8 parts. Voilà.
Donc, je suis ravi de l'apprendre.
Oui, moi aussi. Alors, dans les poèmes satiriques des 12e et 13e siècles qui critiquaient les grands seigneurs, est-ce qu'il y avait de la place pour des passages où l'on célébrait quelque chose qui serait rien ? C'est-à-dire juste des trucs paillards, pour le plaisir, pour la gratuité de la description.
Alors, je ne suis pas du tout spécialiste des écrits, effectivement, des satiristes des 12e et 13e siècles, mais plus généralement, dans une œuvre littéraire, comme d'ailleurs dans toute œuvre artistique, il y a des temps forts et puis il y a des temps faibles, il y a des moments qui sont très pleins et des moments qui sont plus creux. C'est d'ailleurs nécessaire pour, j'allais dire, presque la santé mentale du lecteur ou du contemplateur. Stendhal disait que dans une œuvre d'art, c'était comme dans un bâtiment. Il y avait des passages magnifiques qui étaient faits en marbre, et puis d'autres qui étaient plus quelconques, qui étaient un peu du remplissage, qui étaient faits en plâtre.
Ouais.
Bon, donc, il y a des moments où c'est très intense et des moments où c'est presque rien, quoi, effectivement.
Oui, mais alors, un autre auteur, Flaubert, par exemple, Un cœur simple, ce sont que des gens tout simples. Hein.
Tout à fait.
C'est la bonne et sa maîtresse qui est quelconque, qui est... Donc, on peut construire une œuvre avec des gens qui ne sont pas des héros.
Ah ben, c'est certain. C'est sûr qu'en dehors de Félicité et du Perroquet, il n'y a pas grand-chose qui soit notable dans Corps simple, si ce n'est que c'est un chef-d'œuvre. Ben, de toute façon, Flaubert, qui je crois vous est cher, avait pour ambition d'écrire un livre sur rien.
Hein, oui.
Hein. Bon, et il s'en est approché le plus qu'il pouvait. Bon, c'est jamais tout à fait possible. Les philosophes, ça me rappelle d'ailleurs un souvenir assez cuisant en philo, demandent souvent « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Bon, c'est assez difficile d'y répondre parce qu'on touche tout de suite à la métaphysique. Bon, un livre absolument sur rien, ça n'est pas possible. Même Flaubert, avec son génie et avec sa force de travail, n'y est pas tout à fait parvenu.
Oui, on dit que seul Dieu peut faire quelque chose avec rien.
Voilà, oui, on touche tout de suite la métaphysique ou le religieux, quoi, exactement, oui. C'est ça. Oui, d'ailleurs, ce sont des vieux souvenirs là, qui me reviennent de manière plus ou moins confuse à l'esprit avec votre remarque. Dans l'Antiquité, enfin, j'espère ne pas dire de bêtises, les philosophes ne concevaient pas vraiment le néant, hein, comme Sartre a pu le faire dans L'être et le néant, quoi, par exemple. Bon, pour eux, l'être... c'était une évidence, quoi, le quelque chose, en somme, quoi. En fait, oui, c'est ça. Entre le tout et le rien, il y a le quelque chose. Bon, et c'est sur ce quelque chose, sur ce médium, en somme, que s'interrogeaient beaucoup les philosophes antiques, même si, là encore, ça reprend ce que vous disiez, ils affirmaient clairement que le néant ne pouvait pas donner naissance au quelque chose, quoi.
Oui. Alors, il y a un texte connu, Carmina Burana, bon, c'est pas... mais le recueil de textes, avec justement les Goliards. Alors, j'avais lu que c'était des ecclésiastiques défroqués ou des étudiants vagabonds. Pourquoi vagabonds? Parce qu'ils allaient d'une université à l'autre?
Oui, c'est tout à fait vrai. Ils voyageaient pour voir du pays. C'était... des semi-marginaux, hein, il faut quand même bien le reconnaître. Je ne sais pas quel était leur niveau d'études à la fin de leur circuit, mais fondamentalement, cette définition est juste.
Oui. Alors, moi, là, je l'ai lu hier soir en préparant notre chère émission, dans l'Encyclopédia Britannica.
Une référence.
Parce que c'est une référence et parce que, par coquetterie, mais aussi par passion... J'ai des collections de dictionnaires, des encyclopédies. Bon, il faut surtout de la place, hein, c'est ça le problème. Surtout que maintenant, on arrive à les acheter, même si je les ai depuis 20 ou 30 ans. Maintenant, malheureusement, lorsque le monsieur décède, les enfants se débarrassent de sa bibliothèque. Et quand il y a une encyclopédie qui fait 3,20 m de long, voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que si l'on ne possède pas le dictionnaire de Trévoux, et le Larousse du 19e siècle, on n'est rien. Est-ce que vous l'avez, le Trévoux?
Je crains de n'être rien, parce que je n'ai pas...
Et vous n'avez pas le Larousse du 19e?
Oh, j'en ai peut-être...
Maintenant, il existe en numérique, je sais.
Oui. Bon, j'ai quelques vieux dicos, effectivement, c'est pas impossible, il y en a qui remontent au 19e. Mais pour le dictionnaire de Trévoux, je regrette de dire que je ne suis rien.
Ah oui, voilà. Mais c'est un petit peu... C'est un peu comme cela que Jacques Séguéla avait dit, je crois à la télévision, si à 50 ans, on n'a pas une Rolex comme Sarkozy, on n'est rien. On a raté sa vie.
Bon,
alors, est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que l'inverse de rien, c'est posséder quelque chose qui est cher, par exemple?
Oui, bonne question. Alors là, du coup, on arrive au distinguo entre l'être et l'avoir. Je pense qu'on peut être quelqu'un, voilà, hein, même si on ne possède presque rien. Je pense que c'est même un idéal dans certaines philosophies orientales. C'est pas celui de M. Sarkozy, c'est sûr.
C'est le dénuement.
Oui, c'est ça.
Bon, j'ai cité le dictionnaire de Trévoux. Trévoux, c'est pas un personnage, c'est pas un monsieur. Hein. C'était une abbaye, une abbaye.
Une communauté, c'est ça.
Voilà, une communauté. C'est ça. Et chacun effaçait son nom. Enfin,
ah bon, ça j'ignorais.
Oui,
c'est une œuvre collective. Voilà, un petit peu comme en maths, on a Bourbaki, c'est pas un monsieur Bourbaki, c'est un groupe, effectivement. Oui, c'est du même genre. Oui, ça.
Voilà.
Oui.
Donc, comment, est-ce que c'est preuve d'humilité que d'être rien ou d'être personne ? Mon nom est personne, comme dans notre générique, cher Christian Gouillard.
Il y a une certaine coquetterie, hein, effectivement, à dire qu'on n'est rien dans l'espoir d'être contredit, sans aucun doute. Ça se voit.
Et d'avoir le prix Goncourt.
Par exemple.
Par exemple, oui.
Par exemple, c'est ça, effectivement. Bon, cela dit, il y a aussi des gens qui, je crois, ont une humilité sincères et qui pensent qu'ils ne sont pratiquement rien, ça devient rare de nos jours.
Oui. Mais alors, en ce moment, dans nos turpitudes politiques, voilà, donc là, nous enregistrons cette émission, nous sommes le 10 septembre, donc un jour où on ne sait pas comment on va, si on va avoir un nouveau gouvernement et tout, et les gens répondent maintenant, ça ne sert à rien. Cette lassitude, c'est l'expression de la lassitude. Hein, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on en arrive à cette acceptation du rien ?
Oui, là encore, on touche presque au nihilisme. Hein. Certains, que je ne nommerai pas, qui veulent foutre le B, etc.
Le chaos, ils disent.
Oui, le chaos, c'est ça.
Le monsieur, là.
Oui, voilà. Appellent le néant un petit peu de leur vœu. En tout cas, ils voudraient faire table rase d'un certain nombre de choses, comme on le chante dans l'international. Oui, ça en dit malheureusement assez long sur le désespoir d'un certain nombre de nos contemporains, qui ne voit plus comment on pourrait reconstruire quelque chose, effectivement quelque chose.
Ouais. Ouais. Alors justement, confronté au rien, Lénine avait dit « que faire ?»
Oui, oui, voilà, voilà. Et c'est une question très saine, effectivement. C'est le questionnement qu'on aimerait d'ailleurs entendre plus souvent dans la bouche de nos politiques ou de nos penseurs, une réflexion sérieuse sur des alternatives... un petit peu au néant idéologique actuel, quoi, il faut bien le dire, ou au presque rien idéologique actuel.
Voilà. Oui. Est-ce que dans les relations amoureuses, la lassitude, bien sûr, même... cela ne nous regarde pas, comme disaient les footballeurs. Dans la vie de tous les jours, parfois, on se laisse aller à la routine. Est-ce que c'est quelque chose d'inéluctable ou est-ce que... Alors, je ne me parlais pas de votre expérience personnelle, mais dans la littérature notamment, la semaine dernière avec Dominique Gouillard, que vous connaissez bien, on avait évoqué Ulysse, qui, à l'âge canonique, à l'époque de 50 ans, tombait amoureux, ou plutôt était l'objet de l'amour d'une jeune fille de 18 ans. Voilà, donc ça pimente le récit.
Sans aucun doute, effectivement. Oui, d'ailleurs, pour autant qu'ils m'en souviennent, mais je parle sous le contrôle des hellénistes, n'est-ce pas ? Ulysse n'était pas indifférent, effectivement, au charme de la donzelle, hein, qui jouait à la balle en bikini, voire moins, en attendant que sa lessive sèche sur la plage. Hein. Alors, donc, je me réfugierai derrière des généralités pour répondre à votre question. Dans la littérature, oui, il y a pas mal d'exemples où le sentiment amoureux s'use avec le temps, mais de toute façon, qu'est-ce qui ne s'use pas avec le temps, finalement, et la répétition, là, on l'a encore, hein, Flaubert, dans l'éducation sentimentale... Ou d'ailleurs, il ne se passe rien entre Frédéric et la dame de ses pensées. Bon,
voilà, et quand elle vient, enfin, il voyagea, il connut la mélancolie, et elle enlève sa voilette, les cheveux blancs, gris qui tombent, et la passion, les 400 pages précédentes où il lui courait après tombent à l'eau, et Flaubert va à la ligne après. Et il dit, et ce fut tout.
Voilà.
Ce fut tout.
Oui. Voilà, alors justement.
Et il dit, et ce fut tout pour dire, c'est rien maintenant.
Voilà, exactement. À la fin de l'éducation sentimentale, qu'est-ce qui reste? Presque rien. Une mèche de cheveux gris.
Voilà.
Voilà. Et ce fut tout, ce ne fut presque rien, absolument.
Formidable, hein.
Ah oui, oui, ça, c'est très fort, hein, ça, ouais. C'est sûr. Oui,
c'est pour ça,
ça fait penser un petit peu, d'ailleurs, à la fin du Voyage au bout de la nuit, quand Céline dit « et qu'on n'en parle plus ».
Oui.
C'est, voilà. C'est un peu du même genre.
C'est ce que disait Germain Muller aussi, mais pour d'autres raisons, on n'en parle pas. C'est pas plus, on n'en parle pas.
Hein. D'accord. Ça,
c'est le retour des malgré nous,
ah oui, okay, oui.
Et des volontaires, et ah tout oui. ça dans les familles.
Oui.
Donc,
il vaut mieux ne pas en parler. Oui,
il vaut mieux pas en parler. Voilà,
d'accord.
C'est
oui.
ça. Le fameux gars qui revient, qui lui aussi a été blessé dans les camps parce qu'il est tombé du Mirador.
Ah oui.
Oui,
ah,
c'est une des blagues du Barabli et qui refait les gens dans la salle riait jaune.
Hein. Oh, oui,
voilà,
oui,
on peut comprendre.
J'imagine.
Oui.
Oui, d'accord.
Oui. Est-ce qu'il y a d'autres textes célèbres qui peuvent galvaniser le peuple?
Oula.
Bon, Delacroix, lui, il a peint de façon assez provocante et la liberté guidant le peuple. Et il y a quand même, quand on avait un billet de 100 francs, je crois, on le regardait attentivement pour une raison précise, c'est que Madame Liberté avait des nibards formidables. Et donc, c'était quand même formidable d'avoir sur un billet de banque, mais enfin, c'était 100 francs, c'était plus que l'argent de poche.
Hein. Ah oui, oui, c'est sûr, effectivement, oui.
Voilà.
Ça faisait rêver pour pas mal de raisons, oui. Les adolescents que nous étions. D'ailleurs, à ce sujet-là, ça me rappelle une anecdote. Un copain, c'est beaucoup dire, mais enfin, quelqu'un que je connaissais, qui était assez aventureux, qui allait avec sa vieille Volkswagen en Turquie, un jour est allé dans une petite ville... Pour changer justement un billet de 100 francs avec la liberté fort peu vêtue guidant le peuple, et donc présente son billet à la banque, quoi. Et alors le gars, le guichetier contemple très très longuement effectivement la liberté en question, et puis à la fin, avec un air désespéré, il rend le truc à mon copain. Donc, c'était pas de l'argent, quoi, ça,
oui,
effectivement.
Pas, oui.
C'était peut-être de la pornographie, en tout cas, c'était pas de l'argent.
Oui. Quoi, ça. Puisqu'on est parti sur ce thème, hein, de la croix, pour le grand spectacle de l'inauguration des Jeux Olympiques à Paris, où on a reproduit différents tableaux, je ne sais pas s'il y avait la Méduse de Géricault ou d'autres tableaux, il y avait la liberté qui a été, cette construction en pyramide, eh ben, les seins étaient couverts. J'ai remarqué ça. Et c'est un plan qui dure 2 ou 3 secondes.
Oui, oui, oui.
Et j'imagine, je n'ai pas cherché, que c'était pour que ce plan ne soit pas censuré dans les pays musulmans,
non,
et que la pudeur, voilà, et donc pour que l'image devienne universelle. Ce que je trouve strictement scandaleux.
C'est de la pudibonderie, oui,
oui,
effectivement.
Oui,
enfin, c'est fort possible. Hein,
oui.
Mmh. Comme pas mal de monde, j'ai surtout été frappé par la scène, n'est-ce pas, avec Philippe Catherine.
Oui.
Mais ce que vous dites me paraît fort vraisemblable, effectivement. Oui.
Oui, oui, alors, il y avait des riens, justement, puisqu'on part parce que les commentateurs d'Antenne 2, de France 2, enfin de France Télévisions, n'avaient rien reçu. Ils n'avaient pas de dope sheet, comme on dit,
ah bon,
c'est-à-dire le descriptif. Donc, ils ne savaient pas qui était qui. Ils voyaient un bateau qui passait, ils cherchaient vite dans un dictionnaire le drapeau pour voir de quel pays ils étaient. Y avait un groupe de rock extra connu, dont je n'oubliais le nom, qui jouait sur les fenêtres de la conciergerie avec un système très astucieux de plateaux sortant des fenêtres. Aucun des deux ne le connaissait, ils étaient restés à Pink Floyd, Deep Purple et Led Zeppelin, donc ils ne connaissaient pas les trucs. Et donc, il a fallu que ce soit les spectateurs qui soufflent, parce qu'ils ne savaient pas. Oui, donc voilà. Donc parfois, le rien... Alors c'est embêtant, parce que quand on a des millions de spectateurs ou d'auditeurs, on est chancé, mais ça veut dire pouvoir travailler...
Ça, je plains vos confrères qui ont dû travailler effectivement en se basant sur rien. Effectivement, voilà. C'est comme construire une maison sur une absence de fondation, quoi. C'est pas très sérieux de la part du comité organisateur. Ouais. C'est vous qui me l'apprenez, effectivement. Ouais.
Mais en même temps, avoir beaucoup, ça permet de faire des choses très très construites. J'ai eu, alors, je m'adresse aux auditeurs un petit peu âgés de, vous l'avez bien connu. Sur Radio Judaïque à Strasbourg, Léon Zitrone, je ne sais pas si ça dit quelque chose à tout le monde, mais qui était le champion des mariages princiers, il a présenté le journal télévisé pendant des années, et qui était aussi le champion du tiercé du dimanche.
Ah,
voilà. Le tiercé du dimanche, ça dure 45-50 secondes. Voilà. Et alors, il a donné des cours au QEJ à Strasbourg, au Centre universitaire de journalisme, où j'ai eu le privilège
une référence, oui, absolument, qui s'honore
de passer mon diplôme.
Voilà, voilà.
Et il nous expliquait que pour faire ces 45 secondes, il lui fallait plus d'une heure de préparation de travail. C'est-à-dire qu'il lui fallait faire des fiches sur les 15 jockeys, avec les descriptifs, la couleur de la casaque, la forme du casque à pointe, l'âge de la jument et tout ça. Et donc, en plus, il était bigleux, il voyait rien. C'était devant un écran et donc il avait des assistants qui pointaient du doigt la fiche. En faisant un petit mouvement du doigt pour dire il avance, non, il recule. Et lui... il arrivait à parler sur du rien, puisqu'il ne voyait rien et que ça se passait tellement vite. Et quand on réécoute, grâce à Lina, ce genre de commentaires, c'est de la poésie. Enfin, c'est absolument formidable, avec un rythme, il commence assez lentement, et il accélère et tout.
Oui. J'ignorais ces secrets de cuisine de Big Léon, comme on l'appelait affectueusement, oui. Là, effectivement. Mais c'est vrai que c'était impressionnant. Bon, je ne suis pas spécialement turfiste, mais mon grand-père l'était. Le dimanche, sur le coup de 15 heures, rituellement, quand on était chez lui, on avait de retiercé. Mais effectivement, un tel appartenant à la Gacante, au rouge, je crois, de Lorraine jaune, etc., qui est en tête pendant que machin. Mais c'est vrai que c'était un numéro, quoi. C'est un numéro poétique, peut-être. En tout cas, c'était un numéro. Alors, j'apprends que là, c'était un numéro de funambulisme, mais il n'y avait même plus de fil, en fait, si je comprends bien.
Il
n'y
avait
pas
de fil, mais il y avait quand même un énorme travail.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est le contraire du rien.
Oui, c'est ça. Voilà.
C'est une addition de mille choses. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé en tant que prof devant vos élèves? Vous arrivez pour faire votre cours, vous avez oublié votre sacoche à la maison? Vous ne vous souvenez même pas du sujet que vous êtes censé aborder, donc vous ramassez le cahier d'un bon élève pour regarder où est-ce qu'on en était, et vous partez sans fil comme ça.
Alors, ça ne m'est jamais arrivé d'oublier tout à fait mon cartable, mais ça m'est arrivé d'oublier effectivement quand même les feuilles, le poli que j'avais rédigé, ou je sais pas quoi, et sur lequel je voulais m'appuyer. Alors bon, il y a des trucs de métier, hein, alors parfois un petit peu lâchement, on décide qu'on va faire une interro. Bon. mais parfois on s'en tire quand même plus brillamment, parce qu'on a quand même, un peu comme Léon Zitrone, bossé le sujet en amont, donc on va quand même à peu près s'en tirer. Parfois, ça donne de très bons résultats. D'ailleurs, bon, dans la plupart des cas, ça sera moins structuré, forcément, et peut-être un peu moins pédagogique. Mais dans certains cas, finalement, on va juste à l'essentiel, quoi. On laisse un petit peu de côté ce qui serait parasite. Bon, je précise quand même, pour ma réputation a posteriori, que ça m'est arrivé assez rarement. Mais parfois, il m'est arrivé de travailler sans filet.
Oui, alors justement, oui. Donc le côté brillant, le brio, oui. Pourrait être basé sur le fait que vous n'aviez rien.
Alors, il y a des gens qui sont doués pour l'improvisation, d'autres moins. Et bon, d'une manière générale, les meilleures improvisations sont encore celles qu'on a préparées. Hein, ça, c'est assez clair. Oui. Bon, mais parfois...
Sauf quand il s'agit de dissolution.
Ah oui, voilà.
Je me permets d'arrêter d'être sérieux.
Oui. C'est un terrain sur lequel je ne m'avancerai pas, mais je suis assez de votre avis, effectivement.
Oui, et les élèves s'en apercevaient ou pas?
J'espère que non, je pense que non, dans la plupart des cas.
Oui.
Je pense que non, effectivement.
Voilà.
Pourtant, c'était des étudiants, hein, déjà. Non, mais enfin, bon... je connaissais quand même un petit peu mon sujet a priori, quoi. Donc
voilà. Et alors vous rencontrez, j'avais évoqué ça avec Dominique Gouillard la semaine dernière, un ancien élève, 20 ans, 30 ans plus tard, vous pourriez lui faire l'aveu. Tu te souviens, le jour où j'ai fait le cours sur... j'ai tout improvisé, non ?
Vous en étiez aperçu ou je sais pas quoi. Ça. Dans ce cas-là, le plus vraisemblable, ce serait que l'élève en question me dise « Ah bon, excusez-moi, mais je ne me souviens plus du tout de ce cours, etc. »
Oh, ça serait, mais non, ils sont polis et ils sont...
Oui, oui, oui.
Ils vont dire « Ah mais oui, monsieur, c'était formidable, comme d'habitude, non ?»
En général, ils sont polis et ils vont peut-être répondre quelque chose du genre.
Voilà, et bien écoutez, cher Christian Gouillard, c'était formidable, comme d'habitude, puisque vous êtes un habitué de, vous l'avez bien connu, hein, notre émission sur Radio Judaïque à Strasbourg.
Merci.
Nous avons réussi à parler de rien pendant un bon moment, et c'était l'épisode numéro 124 de Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïque à Strasbourg. Ah, rien, comme c'est bizarre, Christian Gouillard, que de... persécution pour un Y, hein, dans « Ah, rien ». Bon, petite astuce, voilà. Alors, la semaine prochaine, j'espère que mon invité sera le total opposé de notre érudit, Christian Gouillard. Ça va être plus compliqué de faire parler quelqu'un qui ne veut rien dire. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli, et mon nom est Ambroise Perrin.